garçon et la fille évoluent avec une grâce rythmée, comme liés ensemble par quelqu'un invisiblement. Ramuncho, 1897, de Louis-Marie-Julien Viaud, dit Pierre Loti, est écrivain et officier de marine français, né le 14 janvier 1850 à Rochefort et mort le 10 juin 1923 à Hendaye. Pourquoi dit Pierre Loti ? Car il découvre l'Algérie et l'Amérique du Sud en 1869, l'île de Pâques et Tahiti en 1871, puis la Turquie en 1877. À Tahiti, la vieille reine Pomeramé lui donne le surnom de Loti, du nom d'une fleur tropicale, 25 janvier 1872, tenu à une obligation de réserve du fait de sa qualité d'officier de marine. Il n'en fait son nom de plume qu'à partir de 1876. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 30 octobre 2021. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien, dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Aujourd'hui, nous avons Johan. Bonjour. Notre Bonjour. Thème du jour, les relations filles-garçons. Pour cela, nous recevons, comme je viens de le dire, Johan dans le studio, Julien Lefebvre, professeur des écoles en classe Ulysse au téléphone. Maintenant, Sylvie va nous présenter le thème du jour.
Alors, le thème du jour, les relations filles-garçons. Alors, nous allons aborder les relations filles-garçons dans les écoles primaires, puis au collège. Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, on peut lire « L'égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental inscrit dans le code de l'éducation. Elle encourage un climat scolaire serein, assure un cadre protecteur sans comportement ni violence sexiste et elle favorise la mixité et l'égalité en matière d'orientation. » Dans le système éducatif, l'objectif est souvent lié à l'égalité filles-garçons. Aujourd'hui, nous allons voir comment les relations filles-garçons évoluent donc avec l'âge. Donc, c'est toujours moi qui continue, puisqu'on a changé un petit peu le déroulement. Alors, on va parler de la mixité et donc de l'égalité. Hein. Alors, ce n'est qu'en 1965, avec la circulaire du 15 juin, que la mixité devient le régime normal de l'enseignement primaire pour les écoles nouvellement construites. Elle fut généralisée à tout établissement scolaire par les décrets d'application de la loi Habit en décembre 1976. Qu'est-ce que la loi Habit ? Alors, elle doit son nom au ministre français de l'Éducation nationale, René Habit, qui est une loi française du 11 juillet 1975. Et comme je viens de le dire, l'application a été faite en décembre 1976. Elle prévoit notamment la mise en place d'un collège pour tous en continuité de l'école pour tous, donc le primaire. Julien, on va te poser la question. Bonjour.
Bonjour.
Avant de nous rappeler un petit peu qu'est-ce que la classe Ulysse, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, la mixité a apporté quelle amélioration ?
Alors, pour moi, la mixité, elle a permis d'œuvrer pour l'égalité entre les filles et les garçons, qu'à l'époque, les filles n'avaient pas accès, du coup, à la même culture, à la même éducation. Donc, c'était une grande cause nationale de ce quinquennat, de mieux se connaître déjà depuis le plus jeune âge, parce que les filles et les garçons étaient séparés, donc du coup, là, il y a vraiment une mixité.
Oui, ça a permis de mieux se connaître aussi.
Oui, tout à fait.
Et par contre, est-ce que tu peux nous rappeler, toi, qu'est-ce que la classe Ulysse ? Et nous dire un petit peu comment ça se passe dans ta classe au niveau filles-garçons ?
Alors, l'ULIS, donc c'est l'unité localisée d'inclusion scolaire. Donc, plein de gros mots pour dire que c'est un dispositif qui, en fait, accueille les élèves là où ils en ont besoin, là où ils ont des difficultés. C'est-à-dire qu'ils font toujours partie de leur classe d'âge. Donc, c'est-à-dire un élève de CE2 restera en CE2. Et il pourra venir bénéficier du dispositif là où il a des difficultés, donc sur des temps définis avec les enseignants. Et les contenus sont adaptés, les supports également. Et moi, ça me permet aussi d'intervenir dans les classes quand le temps me le permet, au niveau de l'emploi du temps, pour aider les élèves dans leur classe. Adapter les contenus et voir avec les élèves directement dans leur classe quelles sont leurs difficultés et où je peux aider. Et également, du coup, il y a une AESH, donc c'est une personne qui aide les élèves, donc anciennement ASH, qui vient aider les élèves soit dans le dispositif, soit dans leur classe directement. Voilà.
Tu as combien d'élèves dans ta classe d'Ulysse ?
Alors, c'est un dispositif de 12 élèves maximum.
D'accord. Donc, ça ne doit pas être évident, parce que ce sont 12 élèves qui ne sont pas forcément dans la même classe, et donc dans des classes différentes, CP, CE2. La mise en œuvre de l'emploi du temps doit être très, très compliquée.
C'est ça. Je m'adapte essentiellement à l'emploi du temps des collègues, donc des classes d'inclusion. Et donc, par moment, ça m'arrive d'avoir les 12 élèves en même temps dans le dispositif. Donc, là, il y a une gestion de plusieurs niveaux. Et par moment, justement, c'est intéressant parce que je me retrouve uniquement avec 2-3 élèves. Et là, du coup, je peux faire l'individuel dans la classe. Et là, c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, ça m'arrive aussi de ne pas en avoir. Donc, c'est ce que je disais. Là, ça me permet d'aller les voir dans d'autres classes, dans leur classe d'inclusion. Et du coup, je travaille différemment.
Voilà. Oui, combien de filles et combien de garçons ?
Pour le coup, il y a 6 filles, 6 garçons.
6 filles, 6 garçons.
C'est, c'est bien, c'est juste. C'est l'égalité. Voilà, égalité, c'est vraiment le cas de le dire. Et donc, ça te permet aussi le fait d'aller les voir dans leur classe respective, en fin de compte, de voir aussi s'ils changent un peu de comportement par rapport quand ils sont en petit groupe.
Tout à fait. Pour le coup, ils n'ont pas le même rôle. Dans le dispositif, du coup, le niveau est adapté, et donc les plus grands se sentent un peu plus valorisés et peuvent aider les plus petits. Et quand ils retournent dans leur classe d'inclusion, le souci, c'est que le niveau est trop élevé la plupart du temps pour les élèves. Et donc, du coup, ils vont avoir un rôle de suiveur, ou alors ça va devenir des élèves fantômes qui ne parlent plus du tout et qui n'échangent plus du tout avec le reste de la classe.
D'accord, alors que sinon en Ulysse, il y a une bonne ambiance, ils parlent tous ensemble, il n'y a pas de problème.
Non, il n'y a pas de souci. Après, forcément, les différences d'âge vont créer des différences au niveau des intérêts. Donc forcément, les plus petits ne vont pas jouer au même jeu que les plus grands. Je disais qu'en soi, l'ambiance était bonne au sein du dispositif. Après, le souci, c'est que la différence d'âge fait que les élèves n'ont pas le même intérêt, enfin les mêmes centres d'intérêt. Mais pour le coup, globalement, les élèves jouent ensemble et s'entendent très bien.
Mais ça va de quelle classe à quelle classe ?
Pour le coup, ça va du CP au CM2.
Eh oui.
CP
au CM2, sur l'ensemble de toute la primaire, quoi. Voilà. Et alors du coup, tu dois voir par rapport aux autres classes, l'ambiance dans ta classe, quoi, les relations filles-garçons, est-ce qu'ils sont plus proches des uns des autres parce qu'ils sont que 12 ? Est-ce qu'il y a une meilleure ambiance ? Est-ce que les relations, est-ce que les filles et les garçons sont ensemble ou est-ce qu'ils sont séparés en fin de compte dans ta classe ?
Pour le coup, ils sont ensemble, que ce soit déjà au niveau du placement dans la classe et même en récréation, pour le coup, ils jouent ensemble. C'est vraiment plutôt, je dirais, une question d'âge. Ils vont rester ensemble au niveau de l'âge. Et après, pour ce qui est filles-garçons, la mixité, elle se fait quasiment à chaque fois.
D'accord. C'est-à-dire qu'en récréation, ils restent quand même à jouer ensemble au niveau Ulysse. Ils ne vont pas forcément retourner jouer avec les autres de la classe respective.
Alors, ça dépend. Mais là, pour le coup, avec le contexte sanitaire, etc., donc nos récréations sont séparées. Donc... pour le coup, on reste tous ensemble, donc on peut pas mélanger les groupes. Mais à l'époque, du coup, comme c'est ma cinquième année, j'ai des élèves qui demandaient soit faire les récréations avec leur classe d'inclusion, soit pendant que nous, on était en création, ils allaient se mélanger avec les copains.
D'accord, ok. Donc la mixité, ça joue vraiment, comme le dit les psychologues, etc. C'est vraiment l'égalité. On va donner la parole à Johan. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette mixité ? Qu'est-ce que ça a pu apporter aux jeunes, en fin de compte ?
Ça permet de toute façon déjà de progresser dans le monde. Après, dans la vie de tous les jours, la mixité, c'est la norme. Donc ça permet déjà, dès le plus jeune âge, d'entrer dans les choses qui vont faire leur vie par la suite. Donc c'est une très bonne chose, effectivement, qu'il y ait une mixité, et ce, à toutes les classes. Alors après, moi, je vois ça par rapport au collège et au lycée, davantage au lycée aussi. Bon, il n'y a pas de soucis, de problème de mixité. Enfin, je le ressens pas vraiment comme ça. C'est une question qu'on se pose
peut-être les adultes.
Nous, adultes.
Je pense.
Mais c'est pas une question qui se pose, eux, à mon avis.
Non, parce qu'ils sont habitués depuis l'école maternelle.
Pas du tout. Et puis, c'est la norme. C'est rentré dans les normes. Bon, là, je lisais un petit peu ce qu'il y avait sur le fil conducteur pour après. Il y a des choses, effectivement, qui me paraissent des questions d'adultes.
D'adultes.
Bien plus que
moi,
des questions d'enfants.
Alors ici, moi, je suis une jeune. Donc, j'ai connu toujours la mixité. Mais là, nous avons deux messieurs.
Deux vieux,
voilà. Gérard et Jackie, qui n'ont pas connu la mixité. Alors, est-ce que ça vous a posé problème par la suite? Qu'est-ce que vous dites-vous sur la mixité?
C'est
Jackie qui parle là.
Oui. Bonjour Julien. Mais j'ai connu la mixité, officiellement qu'au collège, puisque du CP, du primaire, du CP jusqu'au CM2, moi en notre temps, c'était que les garçons. Il y avait école de filles et école des garçons.
Étonnant, et c'est étonnant parce que on a un an d'écart. Je suis plus jeune d'un an. Et moi, j'ai toujours connu la mixité, mais a priori au niveau rural, il y avait plus de mixité parce que on ne pouvait pas construire des écoles à tout va.
Alors nous, on allait voir les filles, c'était vraiment...
on va tout savoir.
Mais c'était vraiment ciblé. Il y avait peut-être une fois dans l'année, quand il y avait des choses, des animations, ou des trucs en ce temps-là, je ne sais plus. C'était des choses bien spéciales. Mais sinon, tout le reste du temps, on était chacun de notre côté.
Et toi, Gérard?
Ah non, moi, j'ai connu la mixité qu'à partir de la seconde.
Ah ouais, donc lycée.
Voilà. Donc avant, c'était que garçon. Quoi.
Et alors, j'aimerais savoir, arrivé au lycée, ça s'est passé comment, en fin de compte, avec les filles, ça a été? Ou alors, est-ce qu'on dit toujours, les filles perturbent les garçons?
Non, ça se fait simplement.
Pas du tout. Puis bon,
vous étiez bien content.
Ça fait quand même un certain temps, on n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Faut avouer ça comme ça aussi.
Mais est-ce que ça s'est fait, naturellement, en fin de compte, d'aller discuter avec les filles, ou justement il y avait peut-être
les élèves, ça s'est fait naturellement. Ce que vous voyez, c'était un peu le prof qui était un peu plus gêné, quoi. Voilà. Nous, on en rigolait d'ailleurs, tantôt, est-ce qu'il fallait interroger les filles d'abord ou les garçons? Nous, on en rigolait. Parce que de temps en temps, on regardait le prof, on lui disait c'est tout.
Et tu voulais rajouter quelque chose?
Mais ça, c'est intéressant, là, je vois avec mes classes, mes petites classes, souvent, notamment en cinquième, j'ai une classe de cinquième où j'ai souvent ça. Ah, mais c'est toujours des filles que vous interrogez. C'est toujours les filles qui...
Mais c'est normal, c'est les filles qui travaillent mieux que les garçons. Alors,
dans les petites classes, parfois ça se vérifie, effectivement. Enfin, pas tout le temps. Mais du coup, il y a le côté... Ah, mais c'est toujours des filles qui vont, par exemple, passer pour la poubelle. Enfin, en cinquième, c'est le cas. Ou alors, qui vont être interrogées, qui vont distribuer les papiers. C'est toujours des filles. Et j'ai souvent
le
reproche.
Il y a toujours une compétition.
C'est ça. Et toi, Julien, tu as ça aussi dans ta classe d'Ulysse? Ou pas du tout?
Alors moi, comme j'ai très peu d'effectifs par moment, le souci, c'est que j'ai pas forcément le choix d'interroger des filles ou des garçons. Mais ça m'arrive du coup des moments d'avoir la remarque de dire « Ah bah, ça fait trois fois que t'interroges une fille. »
Ah oui, quand même.
Et c'est une remarque qu'on a souvent plus des garçons envers les filles que l'inverse. Très souvent, c'est souvent les garçons qui disent « Ah, mais toujours les filles, toujours les filles, toujours les filles. » C'est rarement l'inverse.
Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai relevé, au niveau de la récréation, là, je trouve que tout dégénère, en fin de compte, parce que beaucoup de garçons jouent au ballon accompagnés de quelques filles, mais elles sont souvent exclues. Pourtant, elles s'intéressent vraiment aux matchs de foot et connaissent les noms des footballeurs. C'est ça qui est marrant. Et nous avons une incidence sur les relations filles-garçons. Cet espace de liberté est altéré pour les filles, comme pour certains garçons qu'on n'accepte pas. Donc, ce constat a permis quand même à certains enseignants de primaire de réagir et de mettre des règles. On retire le ballon carrément. Mais pourquoi ne pas mettre des jeux mixtes, justement, pour apaiser ces relations? Oui, Jackie, qui veut me couper la parole.
Non, mais notamment, il y a quelque chose que j'ai vu qui vraiment, je trouve vraiment très bien, et puis qu'on pourrait faire au fur et à mesure. Il y a une expérimentation, alors j'ai vu ça sur un article, il y a une expérimentation qui a été faite, je crois que c'est en Bretagne, qui a été faite sur une école, et ils ont fait une constatation au fur et à mesure sur un nombre de temps, en regardant dans la récréation, dans les temps de récréation, et ils ont vu que ce qui était monopolisé dans les temps de récréation, c'était les jeux de ballon par les garçons, et que les filles étaient mises un peu aux alentours.
C'est ça.
Et au bout d'un moment, donc ils ont fait un peu une concertation avec les garçons et les filles, mais bon, les garçons n'était pas un peu par rapport
macho,
à ce qui allait se faire.
Macho.
Et ils ont complètement, ils ont fait aussi la constatation qu'il n'y avait que du béton. Donc le béton, ça facilitait pas non plus les choses. Et en voyant ça, ils ont donc avec la mairie, tous les parties prenantes, et ils ont remis complètement, ils ont refait complètement
la cour
et les annexes, tout ce qui est dehors, la cour et les annexes. Et là maintenant, il n'y a plus aucune place de béton. Enfin, il y a vraiment il y a énormément de jeux mixtes. Il y a un côté jardin potager qui est dans l'ensemble, tout est dans l'ensemble. Et il y a un côté aussi jeu de ballon, mais tout est englobé. Et maintenant le ballon n'est plus prioritaire.
Ah bien.
Donc il y a un autre revêtement pour le ballon, mais maintenant tout est prioritaire et tout est englobé. Et c'est vrai que maintenant les filles et les garçons se
mélangent
vraiment,
un peu plus,
peuvent jouer. Et ça serait peut-être à réfléchir, parce qu'on le voit dans beaucoup d'écoles. Nous on le voit, on est à Montataire, on le voit. Et c'est vrai que malheureusement, c'est le béton aussi qui fait que il y a rien d'autre qu'on peut mettre à côté. Et on pourrait peut-être revoir ce type de choses.
Mais il est plus facile de jouer à la marelle sur du béton que sur de la pelouse.
Après, il y a tout un tas de petites choses qui sont mises avec. Mais c'est le béton et le ballon n'est plus prioritaire.
Et toi, Julien, vous avez mis quelles règles dans votre école, pour essayer de gérer cette problématique des jeux de ballon, et ça met donc les filles de côté pendant la récré?
Alors, je suis complètement d'accord déjà avec le côté ballon et le côté football qui met les filles de côté. Ensuite, nous, il y a un système de rotation en fait qui est mis en place au sein de l'école. Il y a 4 zones, et du coup, il y a une première zone où il y a la marelle, justement, de tracé au sol. Deuxième zone, c'est les paniers de basket. Troisième zone, il y a le terrain de foot. Et quatrième zone, il y a un côté un petit peu herbacé avec un autre petit terrain tracé au sol, mais qui n'est pas un terrain de foot. Et donc, du coup, la plupart du temps, les élèves ont le ballon uniquement. Après, ça dépend aussi de l'organisation de chaque enseignant. Mais la plupart du temps, les élèves ont le ballon sur la zone numéro 3 où il y a le terrain de foot.
D'accord. Mais on voit, les filles, elles essayent vraiment de s'incruster quand même pour jouer au foot. Oui, Johan.
Mais du coup, le postulat, déjà, pour moi, le foot ne serait pas un jeu mixte. Parce que j'entends jeu mixte.
Mais
pour moi, c'est mixte,
bien
le foot.
Y a pas de... Oui, mais c'est les garçons qui ne veulent pas des filles.
Mais est-ce que ce n'est pas encore un problème de société plus global que le simple problème de l'école
aussi?
Parce que du coup, c'est l'image qui est là sur le sport, même le sport de haut niveau, est beaucoup plus masculin que féminin, tend à se corriger.
Avec du mal, parce que quand on parle du foot masculin et du foot féminin, quand on voit que les filles font quand même des bons résultats, on n'en parle pas. C'est pas médiatisé, c'est pas
très
normal.
Peu, pareil, le handball, on en a parlé un petit peu, parce que c'était la gagnante du handball qui râlait en disant qu'ils avaient fait une sur le foot et pas sur le handball féminin, alors qu'ils étaient championne olympique en handball. Mais c'est une question de mentalité globale. C'est que le foot est un sport mixte de base. Enfin, pour ça, ça me choque pas de voir des ballons régulièrement dans les cours de récréation. Ça.
Après, non, c'est pas ce que ça nous choque, c'est de la façon dont c'est amené en fin de compte. Voilà. Alors les filles qui ont du caractère, elles arrivent à jouer avec les garçons, mais c'est compliqué.
Mais on avait fait il y a un temps, quand on avait fait les TAP, on avait fait aussi une petite animation sur les relations filles-garçons et notamment sur ce que chacun pouvait faire au point de vue métier et autres. Et on avait vu quand même qu'il y avait des petites tensions, et que chacun essayait dans son coin de dire, mais il y avait vraiment un débat qui était intéressant là-dessus.
Mais ça s'estompe avec l'âge.
Oui, bien sûr.
Mais
après collège, lycée,
ça s'arrête.
Encore au lycée, on a encore des clichés de métier par rapport au genre. Ça perdure quand même au lycée.
Quand même.
Donc il y a quand même même sur les vœux d'orientation, il y a souvent en termes d'ambition aussi, on a souvent
surtout au niveau ambition, je pense.
Des garçons très ambitieux, on le voit à la fac aussi.
Mais le problème, c'est qu'on dit toujours, les filles, elles vont faire du littéraire et les garçons du scientifique. C'est en train de changer un petit peu, mais c'est quand même compliqué. Je regardais j'étais chez mon neveu hier soir, et il me faisait voir un petit peu les photos de classe. Et on remarquait qu'en seconde, il n'y avait que 2 filles en scientifique. Alors que moi, qui est de l'autre côté de l'Oise, en fin de compte, il y avait autant de filles que de garçons. Ça dépend des régions aussi.
Et puis, quelque chose de symptomatique, l'année dernière, avec des classes de première, c'était assez drôle. C'était surtout marqué avec une des classes de première que j'avais. Les autres, ça allait, mais une classe, c'était extrêmement marqué. Très souvent, on faisait cours, j'avais cours de MC le lundi, il y avait ma collègue du documentaliste qui venait, on travaillait en binôme parfois le lundi. Et j'avais un couloir garçon, un couloir filles.
Oui.
Et je fais, bon, c'est la classe split en deux. Elle était vraiment splittée en deux. Il y avait vraiment... Et on était en demi-groupe. En plus, à un moment donné, en demi-groupe, on avait des demi-jauges. Donc, du coup, j'avais 18 élèves. J'avais plus ou moins les 10 filles d'un côté, les 9 garçons de l'autre côté. Mais vraiment, c'était deux couloirs différents, le couloir central vide.
Ah, c'est, oui, tout le temps.
J'avais deux classes.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'était assez... Bah, alors, moi, je vois ça dans les collèges aussi, hein, oui, quand j'y vais. T'as des classes où c'est vraiment mixte. Hein, c'est quand on fait les trucs c'est d'une heure, ils sont mixtes, ils sont mélangés. Et puis, bah, comme tu dis, Johan, il y a vraiment des classes où c'est... Puis alors même, il y a même un couloir. Hein. Ils sont à droite d'un côté, à gauche de l'autre. Et puis les 4 ou 5 sièges qui sont devant moi sont vides.
Et tu ressens c'est ça aussi, toi, en primaire, quoi, en Ulysse, Julien, ou pas du tout?
Moi, pas du tout. Non. C'est... Je pense qu'en primaire, ça se ressent pas encore. En plus, on parle pas encore d'orientation, etc. Ouais. Donc, je pense que c'est un autre sujet. Ça reste plus culturel, je pense.
Oui, moi, je pense que c'est plus culturel.
Il y a le côté aussi niveau relationnel où, en grandissant, du coup, se développent d'autres sentiments.
Oui, on va en parler après, effectivement. Je crois qu'ils sont gênés vis-à-vis des uns et des autres, effectivement. Jackie, tu voulais poser une question ou est-ce qu'on passe tout de suite Moi, je vois qu'on remarque de temps en temps un intérêt pour la non-mixité demandée par des parents ou par des groupes de féministes qui refait surface de temps en temps. Et pour certains, la mixité jouerait en défaveur des filles qui ont de meilleurs résultats que les garçons. Qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je suis pour la mixité à 100%. Voilà, j'ai donné mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, on va commencer par toi, Julien, tiens.
Oh, moi, je suis pour également à 100%. Après, j'ai jamais rencontré ce... Ce genre de questions vis-à-vis des parents.
Oui.
Et je vois pas forcément l'intérêt justement de séparer filles et garçons. Au contraire, je pense qu'il y a, un échange qui peut se faire de l'un à l'autre, que ce soit du point de vue ou que ce soit éventuellement capacité qu'on pourrait juger plus féminine que masculine vis-à-vis des parents qui demandent ce genre de questions. Mais pour moi, je suis 100% pour.
Yoann.
Oui, pareil, hein, la mixité c'est une excellente chose. Après, en ce qui concerne les résultats et le postulat donc, fait par certaines associations, il est plus ou moins vrai, plus ou moins faussé aussi, puisque moi je me rends compte très souvent dans ma matière en histoire-géographie, j'ai plutôt l'inverse. Moi j'ai tendance à avoir les toutes meilleures notes, classiquement au collège, c'est très souvent un garçon. Souvent les garçons ont les toutes meilleures notes parfois en histoire-géographie. J'ai effectivement, en global, les filles ont une moyenne un peu plus solide parce qu'il y a des garçons qui effectivement sont plus turbulents peut-être aussi. C'est une question peut-être d'attitude, de savoir-être, de façon d'être aussi, où ils sont peut-être un peu plus turbulents, un peu plus agités pour certains, notamment dans les petites classes, donc 6e, 5e, et après ça se lisse, hein, effectivement. Si, peut-être au lycée, mais après il n'y a pas vraiment de chiffres là-dessus, peut-être des filles un peu plus scolaires, entre guillemets.
Ça. Mais je pense que c'est encore le problème des adultes, hein, des parents notamment, qui ont peut-être peur effectivement que les filles, par rapport aux garçons, elles n'aient pas leur mot à dire, ou qu'il y ait des problématiques aussi d'harcèlement ou notamment de violence. Je pense que c'est ça, c'est plus les adultes qui se posent toujours trop de questions par rapport aux jeunes, on s'en pose beaucoup moins.
Il y a de ça, mais après j'ai des terminales l'année dernière, on discutait en EMC encore une fois, c'est souvent propice pour la discussion, le cours d'EMC, et on parlait justement de la position dans la rue, on parlait de la ville donc, dans laquelle je suis, et le centre-ville qui a une réputation un peu mauvaise, qui avait du moins une réputation un peu mauvaise, et les filles racontaient, mes terminales racontaient, mais quand on va dans la rue, etc., on se sent pas forcément très à l'aise, alors que...
En sécurité, peut-être.
Effectivement, la même question posée aux garçons, la rue... C'est leur territoire.
C'est ça.
Et donc, il y a des choses qui sont liées à la société et on les voit transparaître dans l'école, mais c'est plus la société que l'école qui pose ces problèmes-là.
Enfin. Donc, on va passer à comprendre les relations. Alors, aux alentours de 5 à 7 ans, les filles et les garçons ne veulent plus jouer ensemble, alors qu'en maternelle, ça pose aucun souci. Le mélange se fait naturellement en maternelle. On nous explique que ceci est dû à la prise de conscience sur la différence féminin-masculin, donc du genre. Il est pourtant essentiel d'aller vers l'autre qui est différent de soi, ce qui n'est pas facile non plus. Qui mieux que les collégiens d'une classe de 5e peut nous en parler? Et là, on se tourne vers Luc. Est-ce que tu peux nous faire écouter l'interview de Gérard?
Bonjour. Vous êtes en classe de 5e au collège. Je vais vous poser une petite question simple. Comment vous avez vu l'évolution de vos rapports fille-fille, fille-garçon depuis que vous avez quitté le primaire et que vous êtes arrivé au collège?
Ben, je pense, en primaire, vu qu'on a l'habitude d'être avec des personnes qu'on connaît bien, ça, là, au collège, on n'est pas vraiment dans les classes avec les gens qu'on connaît bien. Du coup, il faut se faire de nouvelles amies, de nouveaux copains,
Et ça, c'est difficile ?
Un peu, mais sinon, non, ça va.
Pourquoi c'est difficile ?
Parce qu'on est un peu timide au début, qu'on ne connaît pas les personnes. Du coup, c'est un peu... Je trouve pas le nom. C'est un peu spécial pour demander d'être ami avec les gens.
Et depuis la sixième qui s'est passée, vous êtes en cinquième. Maintenant, comment ça se passe ?
Ça va. Ça va, je pense que c'est bien, là.
Les groupes restent les mêmes ?
Oui, un peu.
Est-ce que tu as plus d'amis garçons ou de filles ?
De filles.
D'accord. Mais tu as des amis quand même garçons ?
Oui, j'en ai un peu.
En arrivant au collège, j'avais un petit peu peur. Mais vu qu'on a des amis, on se sent en sécurité. Et on n'est pas perdu.
Comparé à la primaire, il y a tout le monde qui se rassemblait, tous ceux qui étaient dans la classe, on est amis. Et depuis qu'on est au collège, dans la récréation, c'est plus des groupes filles d'un côté et garçons de l'autre.
Et pourquoi ?
Je sais pas.
Est-ce que toi, tu as des amis filles ?
Oui.
Oui ? Et tu préfères la compagnie, des garçons dans l'amitié ou...
Oui, les garçons.
Les garçons ? Tu fais quoi, par exemple, pour recréer ?
Je parle des actualités, tout ça.
Et pas de jeu ?
Si, ça peut arriver aussi.
Les garçons et les filles, on parle pas des mêmes sujets, donc c'est pas pareil. On parle, par exemple, les filles vont préférer peut-être être avec des filles parce qu'on est, on fait quasiment pareil, et les garçons avec les garçons parce qu'ils font pareil.
Vous pensez pas que les garçons sont plus forts ?
Non. Vraiment pas.
Ça, c'est sûr, non.
La réaction était très vite, très rapide. Hein.
C'est sûr, il y a des filles qui sont plus fortes ou plus rapides que les garçons.
Qu'est-ce que t'appelles plus forte ?
Par exemple, dans la police.
Dans la police, il y a des filles et des garçons.
Et aussi, à la boxe ou dans des sports, il y a des filles et des garçons. Les filles sont des fois plus fortes que les garçons. Du coup, voilà.
Et en classe, vos relations en classe, comment ça se passe ? Vous avez la parole en classe ?
Oui.
Les garçons ne vous coupent pas la parole, se moquent pas de vous ? Non ? Ça se passe très bien ?
Oui.
Vous arrivez à avoir le dessus ?
Juste, on est un peu timide.
surtout toi.
Non.
Un peu timide, pourquoi ?
Parce que j'ai peur de parler devant les gens, en fait.
On dirait pas.
mais quand il y a trop de gens autour de moi.
T'as peur de dire une bêtise ?
Oui.
Il faut pas.
Moi, c'est juste d'être devant le tableau que ça me...
Ah ouais, moi aussi. Pour la poésie, j'essaie de passer en dernière.
Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre une fille et un garçon ?
Les filles, déjà, quand on dit que les filles ou les garçons sont plus forts entre eux, c'est que les filles sont plus forts que les garçons dans des sports et les garçons plus forts que les filles dans d'autres sports.
Vous avez votre équilibre dans votre spécialité.
On est
tous différents. Si on serait pareil, ça serait un peu ennuyant.
Je suis d'accord.
Il n'y aurait pas de combat. Les combats seraient indéterminés. Il y aurait plus longtemps ou une éternité. Du coup, c'est un peu énervant si on est tous pareils.
Mais est-ce que vous vous trouvez plus mature que les garçons en cinquième?
Un petit peu.
Et qu'est-ce que ça veut dire mature d'abord?
Je sais pas trop, mais... peut-être que les garçons, ils se créent plus de conflits entre eux. Et les filles, un petit peu moins.
T'es d'accord ?
Oui.
Tu as plus des conflits avec les garçons ?
Pas moi spécialement, mais les autres, oui.
Ils se prennent la tête, alors ?
Oui.
Facilement.
Oui, parce que aussi, par exemple, l'année dernière, il y avait surtout au début d'année, il y avait plein de garçons qui se bagarraient. Du coup, ils avaient énormément de mots dans le carnet ou des trucs comme ça. Et du coup,
on a eu un record dans notre classe de 6e. Il avait tellement de mots que il a dû changer de carnet.
Il en a eu 3 carnets en tout.
Peut-être qu'on a appris aux garçons d'être turbulents, d'être pas sages, et on a appris aux filles d'être bien sages, tranquilles.
Eh bien, écoutez, on vous remercie de ce petit interview, en vous souhaitant toute la réussite possible pour vos études dans ce collège.
Merci.
Au revoir.
Donc dans cet enregistrement, donc Gérard, tu étais avec Frédéric.
Frédéric, oui.
Voilà, donc vous étiez tous les deux. Bon, on voit un petit peu, bah, les filles, on reste bien d'un côté, ils n'ont pas les mêmes conversations. Il y a le mot différence hein, qui arrive, je trouve ça très très bien. Quand on pose la question de la maturité, donc voilà, bon, bah, les filles, même si on ne sait pas trop ce que veut dire la maturité, elles sont plus matures que les garçons. Et les garçons sont plus dans le conflit, mais a priori, ça ne génère pas beaucoup de problèmes au niveau relationnel. Donne-nous un petit peu tes impressions. Il y avait combien de filles, il y avait combien de garçons?
Il y avait 3 filles et 3 garçons, et j'étais très très surpris de voir que je m'attendais à, tout de suite à ce que les garçons prennent la parole, et pas du tout. Ils sont restés muets dans leur coin, on a même dû un petit peu
les
taquiner un petit peu pour qu'ils répondent, et j'étais très très surpris de voir que les filles ont parlé sans aucun problème de tout ce qu'ils avaient envie de dire. Et que les garçons n'osaient pas.
Oui, oui. Les filles, elles, je trouve maintenant, alors est-ce que c'est la mixité qui fait ça depuis des années, mais elles assument leur position de plus en plus.
Et après, c'est dommage, peut-être que c'est dans le
l'interview des
troisièmes, et même à un moment, les cinquièmes nous disaient, entre filles, on peut parler de certains sujets, mais n'abordent pas encore les garçons.
Les garçons, tout à fait. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Alors, Julien, moi, je vais te poser la question. Comme tu as un nombre d'élèves beaucoup plus restreint en Ulysse, les relations sont peut-être plus bienveillantes, moins individuelles peut-être entre les filles et les garçons. Il y a peut-être plus d'entraide.
Bah, oui, il y a plus d'entraide parce que forcément, le groupe, comme il est réduit, le souci, c'est quand on se retrouve à 3, on ne peut pas demander de l'aide à n'importe qui. Donc forcément, ça se fait automatiquement et... Comme je disais tout à l'heure, la différence d'âge, elle favorise aussi la mixité, puisque quand je vais avoir une grande qui sait lire avec un petit qui ne sait pas lire, forcément, je vais pouvoir avoir une mixité dans le groupe, et ça va se faire naturellement sans se poser de questions, pour le coup.
D'accord, ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Johan ?
Non, bah pas.
Tu retrouves un peu tes collégiens là, la suite à l'intervention.
Oui,
là.
Oui, ça ressemble. Et ça m'étonne. Moi, ça m'étonne pas que ce soit les filles qui prennent plus la parole. D'ailleurs, ça sur ce genre de thématiques en EMC, dans les classes de collège, et même au lycée. Hein, d'ailleurs, quand il s'agit de parler de la relation à soi, enfin aux autres, etc. C'est souvent les filles qui viennent prendre la parole. Les garçons généralement ne disent rien. Là, on a eu un petit conflit en terminale avec des grands d'ailleurs.
Mais c'est peut-être dû parce que les filles sont peut-être justement plus matures, non? Puisqu'on dit toujours qu'elles sont plus matures que les garçons.
Il y a une réalité là-dedans. On le ressent. Enfin, moi, je le ressens en tout cas au collège, au lycée, effectivement. Généralement, ils sont plus posés, du moins, plus posés, plus calmes. Mais ça, c'est encore une fois des présupposés aussi que la société impose peut-être davantage aux filles qu'aux garçons. Mmh. Généralement, on va dire la fille, elle va rester calme, etc. Le garçon, lui, il va aller faire du sport, il va aller faire de la boxe, il va aller dehors, il va. C'est tous ces clichés-là qui perdurent encore aujourd'hui, et ces clichés de la société, en fait, on les voit en zoom dans l'école, mais c'est pas propre à l'école. Pour revenir sur les terminales, là, il y avait effectivement quelques tensions entre un groupe de garçons et un groupe de filles, pour simplifier, et effectivement... Il a fallu tirer les verres du nez des garçons pour qu'ils puissent dire quoi que ce soit, tandis que les filles sont venues nous parler spontanément aux enseignants.
Mais je pense que ça a évolué dans le temps, parce que moi, ça fait, avec Énergie Jeune, ça fait 10 ans que je fais ça, et je...
Tu vois des changements.
Je m'aperçois que d'année en année, les filles vraiment osent maintenant, ne restent plus figées dans leur coin comme j'ai connu il y a 10 ans. Maintenant, ça y est, j'ai bien vu avec les cinquièmes, là, c'est parti. Là.
Mais nous, quand on faisait les TAP, on faisait travailler filles et garçons ensemble, et c'était très compliqué. Moi, je voulais poser une question à Julien. Comment réagissent les élèves lorsque tu les fais travailler ensemble et en groupe mélangé, filles-garçons? Ça Alors, se passe ça dépend, bien ou ça pose des problèmes?
Ça dépend des élèves. Ça peut poser certains problèmes avec des réactions de « je veux pas travailler avec lui » ou « je veux pas travailler avec elle ». Mais on est plus sur les centres d'intérêt, parce que du coup, c'est des élèves qui parlent pas forcément ou des élèves qui sont un peu dans leur coin. Et c'est pas forcément un souci de mixité, pour le coup.
D'accord. On va faire un petit intermède musical.
Des mariages, des baptêmes, tant de prières. La vie est une page blanche qu'on a remplie depuis l'enfance. Qui aurait pu imaginer qu'on se ressemble? Combien de fois on s'est roulé par terre? Avoue maintenant que t'as un foutu caractère. Une poignée d'années plus tard, on est les mêmes dans le miroir. Y a tant d'amitié, tant de promesses qui s'égarent. Si tu tombes, je te tiendrai. Perdu des êtres chers, laisser les plumes traverser les déserts. On a croisé tant de trésors, mais le plus précieux, le plus fort, c'est de les aimer, les protéger, être père. Si tu tombes, je te tiendrai.
Notre thème du jour, les relations filles et garçons. Pour cela, nous recevons au studio Johan, au téléphone Julien Lefebvre, professeur des écoles en classe Ulysse. Donc, on a coupé la parole à Jackie.
À Jackie, tout à fait. Je voulais juste rappeler que l'intermède musical, comme je fais à chaque fois, c'est Patrick Fiori, soprano, c'est Si tu tombes. Jackie, tu voulais revenir, toi, sur la mixité, oui. L'égalité,
voilà,
plus exactement.
Oui, parce qu'on dit toujours aussi mixité, alors que bon, c'est quelque chose d'important, mais je crois que la mixité doit être aussi il y a aussi l'égalité qui doit être aussi prise en compte au niveau de la mixité. Donc les deux doivent être en lien. Et notamment, il y a une convention, là je regardais, il y a une convention interministérielle qui a été mise en place de 2019 à 2024 pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes aussi, mais dans le système éducatif et dans tout ce qui est la globalité après. Et on regardait justement dans l'égalité, donc mixité et aussi égalité, ce qu'on disait tout à l'heure dans le parcours scolaire. Les filles, on voit que, ce qu'on disait tout à l'heure, les filles réussissent mieux que les garçons donc dès l'école primaire, donc elles obtiennent de meilleurs résultats. Elles redoublent moins, il y a un taux de réussite qui est bien meilleur. Après, au collège, quel que soit leur milieu social et d'origine, les filles s'orientent davantage vers des filières générales ou technologiques. Mais après, il y a d'autres, dans les autres matières, telles que scientifiques, elles ont toujours tendance à ne pas forcément s'y orienter d'office. Donc là,
oui,
et après,
baccalauréat, oui.
Après les grandes écoles, c'est pareil. 74% des élèves des filières littéraires sont des filles. 30% des élèves, il n'y a que 30% qui sont dans les scientifiques. Donc là, il y a des disparités. On voit quand
ça,
même,
c'est
toujours,
quand même en train de changer.
Même si ça évolue, on voit quand même toujours quelques disparités. De ce
oui, mais voilà, c'est peut-être aussi, comme tu disais, c'est dû à la société aussi. Johan, ouais, tu voulais.
Mais juste, bon, elle n'existe plus, ces filières, par
oui, maintenant, c'est fini.
La réforme,
oui,
voilà. Elle n'existe plus. Mais bon, effectivement, on a quand même plus de en mathématiques, par exemple, en spécialité mathématiques. Alors, encore qu'il y a pas mal de filles aussi en terminale qui sont en spécialité mathématiques.
Mais déjà, moi, ma fille a 34 ans, elle a fait scientifique, à l'époque, elle avait pris maths en supplément. Mm-hmm. Il y avait déjà beaucoup de filles dans sa classe.
Ouais, ça commence à se... Alors après, effectivement, dans les grandes écoles, je pense qu'il y a plus de garçons qui tentent les grandes écoles que de filles.
Mais peut-être parce qu'on leur laisse peut-être plus de place aux garçons qu'aux filles,
c'est
peut-être.
Ça, c'est ça, l'idée,
encore
c'est ça.
Les adultes.
C'est encore le monde des adultes qui se... Voilà.
Bah, les grandes écoles sont un peu...
Voilà, on va peut-être avancer un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne. On va parler des relations d'amitié, hein, quand ils sont un peu plus vieux. L'amitié entre une fille et un garçon, possible ou impossible. Et là, donc, je me retourne encore vers Luc. On va faire enregistrement troisième.
Bonjour. Donc maintenant, vous êtes en troisième. Ça fait 4 ans que vous êtes au collège... Vous avez quitté la sixième. Comment vous avez vu l'évolution de vos rapports filles entre filles depuis la sixième ?
En fait, j'ai toujours été amie avec des filles. Donc, en vrai, ça ne change pas trop. C'est juste, en sixième, j'avais des amies que j'avais en primaire. Et là, j'ai totalement changé. Et voilà. Du coup, c'est toujours un peu la même chose.
Est-ce que le moment où vous êtes passé en sixième, vous avez trouvé quelque chose, par exemple, en perdant certains de vos anciennes amies qui étaient en primaire ?
En primaire, c'était surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Du coup, j'étais tout le temps avec les mêmes gens. Mais quand je suis rentrée au collège, il y avait beaucoup plus de gens. Donc, j'ai vu des nouvelles personnes et je suis amie avec ces personnes. Et les autres, on ne parle plus tout simplement comme ça.
Et depuis la sixième maintenant, comment se sont passées vos relations garçon-fille en classe ?
Moi, je trouve que ça s'est amélioré parce que les gens changent, ils sont plus matures et du coup, on peut parler de sujets qui sont discriminatoires ou tabous parce qu'on prend de la maturité et on peut en plus en parler.
Et parce qu'au début, en 6e, 5e, c'était difficile ?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passait exactement ?
Par exemple, si on parle de règles, les garçons se mettent à rire ou un truc comme ça, alors que maintenant, avec certains garçons, on peut en parler, ils rigolent pas, ils comprennent et voilà.
Donc vous avez, entre guillemets, pris un peu l'ascendant sur les garçons de la sixième vers la troisième, ça vous paraît plus facile ?
Oui, moi je trouve que c'est plus facile d'en parler et d'en discuter tout simplement.
Donc les garçons rient beaucoup moins, etc. Vous prenez plus en considération ?
Oui, après pas tout le monde parce qu'il y a des personnes qui prennent pas de la maturité, mais il y a beaucoup de garçons qui comprennent maintenant nos sujets.
Alors depuis la sixième, comment ça s'est passé ?
C'est très bien passé. En fait, quand on est en primaire et quand on passe de la primaire en sixième, on n'est pas habitué. Parce qu'en primaire, c'est séparé garçon-garçon et fille-fille. Alors que là, quand j'étais en sixième, mélangé. Il y a tout le monde qui était avec tout le monde. Du coup, c'était facile de se faire des amis, tout ça.
Est-ce que tu as des amis filles ?
Oui.
Dans ta classe ?
Dans ma classe, partout, dans toutes les classes de 3e.
Et tu parles de plein de choses avec elle ?
Pas de grand-chose en particulier, mais ouais.
D'accord.
Et comment se sont passées l'évolution de la 6e jusqu'à votre classe d'aujourd'hui ? Est-ce que tu as vu des meilleures relations, etc. ?
En fait, non. Parce que quand t'es amie une fois avec... En fait, je ne sais pas comment expliquer.
Ah si, il faut t'expliquer. Ça peut être très, très intéressant.
Vous pouvez répéter votre question.
L'évolution qu'il y a eu entre votre passage au collège en 6e et maintenant, que tu vois un changement dans les relations que vous avez, filles-garçons ?
Non, il n'y a pas trop de différence. C'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Oh. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'évolution.
Ouais. Pour moi, il y a eu beaucoup plus d'évolution. Je parle plus avec des filles que des garçons en ce moment.
Et pourquoi ?
Parce que il y a des bonnes discussions, c'est tout.
Et vous parlez de quoi ?
Plus des choses privées, en fait.
Et en classe, comment ça se passe, les relations garçons-filles en classe ?
Bonne ambiance.
Vous les laissez parler ?
Oui.
Sans problème ?
Non.
Ah, les filles ne sont pas d'accord.
Dans nos classes, en tout cas, c'est...
Vous n'avez pas la parole, mademoiselle ?
Après, il y a des garçons, ils sont irrespectueux parce que on peut donner, par exemple, en SVT, quand on étudie le sexe, il y en a beaucoup qui rigolent pour tout parce qu'on parle de nos parties intimes et du coup, il y en a qui disent « Oh là là, c'est pas ça ». Enfin, ils se croient plus intelligents que les profs alors que les profs, ils sont plus intelligents que nous, ils savent plus de choses que nous et du coup, après, quand on a la parole, ils nous coupent la parole, enfin... C'est des débats, mais après, voilà, c'est comme ça.
Peut-être que ces garçons sont gênés. Voilà, ils jouent les gros bras, quoi.
Oui, mais après, ça peut être encore plus gênant pour Lou, les blagues qu'ils font.
Ils font des blagues un peu sexistes.
Énormément, même.
Quel genre de blagues, par exemple ?
J'en ai pas sur le moment, là, mais...
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, les garçons, maintenant ?
Moi, je pense déjà que de la primaire au collège, il y a moins d'amitié entre les filles et les garçons. Parce qu'en primaire, on est plus petit, du coup, c'est Je sais pas comment dire, en fait, c'est plus facile, on joue tous ensemble, alors qu'au collège, il y a plus de filles ensemble que de garçons ensemble. Enfin, les garçons restent plus ensemble qu'en primaire.
À ton avis, pourquoi ?
Bah, je sais pas, je sais pas trop.
Alors, peut-être parce que vos corps changent, et forcément, vous devenez des jeunes hommes, des jeunes femmes, et donc vous êtes peut-être, intimidés ou...
Est-ce que tu crois que c'est ça ?
Ouais, sûrement, je pense.
Et toi, est-ce que tu vois une différence entre la primaire et puis le collège avec les filles et les garçons ?
Oui, je vois une assez grande différence parce que quand on est en primaire, il y a l'innocence, on voit pas trop la différence, on s'en fiche, juste on s'amuse, on parle avec les autres. Alors que quand on arrive au collège, ça commence à changer petit à petit, on voit les groupes se former, les sujets qui changent selon les groupes, etc. Donc du coup, soit on se met dans un groupe, soit on essaie de traîner avec un peu tout le monde et on change.
Le corps change et ça peut être bouleversant, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Pour l'amitié fille-garçon, au niveau 6e, 5e, mi-4e, c'était assez compliqué parce qu'il y avait les groupes qui se formaient. Ouais, t'es une fille, t'es un garçon et tout. Mais après, en 3e, ça s'est amélioré largement. Parce que du coup, comme elle l'a dit, ils sont beaucoup plus compréhensifs et tout. Du coup, bah, même parfois, c'est encore mieux que les relations fille-fille.
Et par exemple, moi, en 6e, au début, j'avais mes amis garçons que j'avais en primaire. Et après, en 5e, 4e, bah, j'étais beaucoup plus avec des filles parce que c'est comme ça et tout. Mais là, je recommence à avoir assez d'amis garçons et tout.
Est-ce que c'est la fille ou le garçon qui est le plus mûr à un certain âge ou pas ?
Non, je pense qu'on grandit tous différemment, on prend de la maturité différemment, mais après, ça dépend. Par exemple, on peut prendre de la maturité rapidement comme on peut la prendre lentement, ça dépend.
Moi, je trouve que les filles, elles sont plus matures que les garçons. Hein, 6e, 5e, elles sont plus matures que les garçons.
En 6e, 5e, elles sont plus matures.
Mmh. Enfin, elles prennent plus vite de la maturité.
Et tu te vois comment, ça ?
Question piège.
Par rapport à des jeux, par rapport à un aspect,
leur comportement il change. Et
pas le vôtre.
Ouais, le nôtre non. Plus tard le nôtre. D'accord.
Vous c'est plus tard. Bon.
C'est bon pour vous ?
Bon, écoutez, merci beaucoup.
Donc, c'était intéressant avec cette classe de 3e. On voit que les échanges entre filles et garçons se normalisent. Hein, les affinités sont plus bienveillantes, il y a de l'amitié. Par contre, il y a toujours une gêne qui intimide l'autre sexe, mais les groupes mixtes forment malgré leurs différences et les sujets divergent. Et là, on apprend que les garçons sont devenus plus matures. Alors là, je me retourne encore vers Gérard, puisque tu étais encore avec Frédéric. Ton impression, combien de garçons, combien de filles de 3e vous avez ?
Pareil, 3 garçons, 3 filles. Même constatation que tout à l'heure, hein, les premières à avoir pris la parole, c'était les filles. Donc,
et elles parlent de tout, c'est ça qui est étonnant.
Elles parlent absolument de tout, sans tabou.
Sans tabou, oui.
Exactement.
Oui. Les garçons sont plus gênés.
Et les garçons, dès qu'on a essayé, tout de suite, c'est le mutisme, ils n'osent pas. Mm. J'irai pas qu'ils rougissent, parce qu'on ne les a pas devant nous, mais voilà. Et c'était difficile, très difficile.
Oui, les filles prennent une part de liberté, c'est la folie.
Sur les 3 garçons, un seul a pris la parole, oui. Mais parlons clairement.
Ah, très, très clairement, voilà. Oui. On...
Il donc, était comme, très, très bien. Comme on dit les filles... Des garçons, la maturité vient petit à petit dans
c'était
le temps,
très joli, voilà. Très bien dit, voilà. En plus. Oui. Hein,
que certains garçons, ben, très, très jeunes, ont leur maturité, que d'autres l'ont beaucoup plus tard. Mais ça, c'est l'on dit clairement. Quoi.
Mais par contre, le garçon, il a dit une chose qui était très belle aussi, c'était quand on est en primaire, on a l'innocence. C'était très joli, ça, je trouve. Je vais demander à Johan, toi, qu'est-ce que tu penses de cette interview, en fin de compte ?
Oui, c'était intéressant, effectivement, là, sur la maturité. Tout à l'heure, on disait bon, c'est un peu des lieux communs, dire que bon, les garçons mûrissent moins vite. Effectivement, c'est... bon, il y a une part de réalité, mais après, c'est vrai que chacun mûrit à son rythme. C'était très joliment dit et très bien dit par la jeune fille qui a pris la parole. Après, au-delà... Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement lié à de la gêne, puisque la question a été posée à un moment, est-ce que c'est par rapport à la gêne, par rapport au fait de grandir, effectivement, la puberté, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément par rapport à ça, c'est encore une fois quelque chose de sociétal aussi, hein, pour le coup, si on regarde à plus long terme, bien sûr, ça se lisse avec le temps, mais il y a quand même des réalités qui perdurent, j'ai envie de dire, presque tout au long de la vie, enfin, mais ça c'est... Parce qu'il y a des activités qu'on a associées très jeunes aux garçons, des activités qu'on a associées très jeunes aux filles, Et il suffit d'aller voir. Moi, j'avais un élève au lycée là, qui fait de la danse, mais ils sont rares, les garçons.
Ils sont très rares. Ils se font moquer. Hein.
Ouais, ils sont très rares, les garçons qui font de la danse. Et puis, de la même façon, les couleurs. Le jeu des couleurs aussi. On en parlait en EMC encore une fois. Mais bon, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, c'est même indiqué. Si on prend les symboles des sexes, les deux symboles.
Oui, c'est ça. Oui.
Le symbole des garçons est bleu, celui des filles est rose. Hein. Donc. C'est des choses qui sont intégrées dans nos
dans notre
esprits.
Société, voilà,
dans
c'est ça.
Alors, pour reparler du footballeur, je ne sais pas si vous avez vu à la télé l'autre jour, mais le footballeur qui, dans les tribunes, faisait du tricot.
Ah vous non, pas j'ai vu pas ça vu. À la télé. Ah, mais c'est bien ça.
Il était dans la tribune, il faisait du tricot. En attendant, tant qu'ils ont montré ça à la télévision,
ça,
moi, j'ai trouvé ça magnifique. Quoi.
Mais ouais. Avant, les garçons apprenaient, hein, de toute façon, je crois,
à l'école.
Ah, mais
j'ai appris à tricoter, moi.
Voilà, ouais, ça, c'est bien, ouais.
Ah, oui, avec ma grand-mère.
Ouais, voilà.
Bah, comme j'avais une sœur jumelle, donc il fallait bien voilà. Que je fasse pareil. Hein.
C'est ça, donc, ça, c'est voilà. Bien. Voilà. Alors, moi, je me retourne vers Julien. Dans ta classe, quels sont les sujets qui fédèrent un intérêt, aussi bien chez les filles que chez les garçons? Alors, plus toi, ça doit être compliqué, parce qu'au niveau des Ulysse, il y a l'âge, tu as des élèves de CP ou CM2. Comment tu fais?
C'est ça. Bah après, ça va être essentiellement des phénomènes de société ou des nouveaux jeux. Par exemple, je vois, il y a quelques temps, il y a eu le phénomène Pop-It là, qui est arrivé. Et c'est des choses qui, en fait, qui va rapprocher tous les élèves, que ce soit au niveau de l'âge ou au niveau de la mixité, je veux dire garçon-fille. Et du coup, ils vont être vraiment axés sur ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent à la maison ou à la télé, pour le coup. Donc ça va être des choses qui vont les rapprocher énormément.
D'accord. Moi, je voulais dire aussi, à l'adolescence, le jeu de la séduction a créé souvent des rivalités entre filles-filles ou garçons-garçons. Et c'est un moment propice pour une amitié fille-garçon qui respecte l'un et l'autre, une complicité naissante par une concurrence qui est absente. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Julien? J'aurais voulu aussi que tu nous dises un petit peu ce que tu penses et ton avis sur l'interview des jeunes de 3e.
J'ai trouvé ça super intéressant. Effectivement, il y a une notion de maturité, comme l'avait dit la jeune fille, et la notion d'innocence, elle était vraiment là, parce que moi, je vois vraiment les élèves, ils sont vraiment innocents, ils sont là, ils sont tous ensemble, ils se posent pas de questions, en fait, pour le coup. Et c'est marrant, justement, que tu parles du côté séduction, parce qu'en ce moment, j'ai un garçon et une fille de la classe, et ils sont très proches l'un l'autre. Et ça m'arrive de les voir en classe, même ils rapprochent petit à petit leur table l'un de l'autre. Donc ça, c'est mignon. Et de temps en temps, j'ai ma collègue qui me dit « Regarde », et on les voit, ils essayent de se donner la main discrètement sans que personne les voit au sein de la classe. Donc c'est vraiment le côté innocent qu'on ne retrouvera pas, je pense, au collège. Et justement, au collège, ils pourraient subir des moqueries ou autres. Et là, les autres élèves, ils sont complètement ailleurs et... Enfin, même s'il y a des élèves qui se rendent compte de ce qui se passe, ils ne les jugeront pas, il n'y aura pas de moquerie forcément plus que ça.
Moi, la question que j'avais envie de poser, c'était est-ce que l'amitié existe justement grâce à la mixité que les jeunes ont connue depuis leur plus tendre enfance? Ils sont habitués à vivre ensemble, ils ont appris à se connaître et ils ont compris que chacun a sa place aussi dans notre société, hein, plus que nous, plus que les anciens. Et souvent, nous, on a encore le modèle patriarcal. Dans la classe, moi, je voulais te demander, les garçons, est-ce qu'ils laissent facilement la parole aux filles? Est-ce qu'ils ne se moquent pas des filles quand elles prennent la parole?
Alors moi, dans ma classe, pour le coup, je n'ai pas du tout ce ressenti-là. Je ne sais pas, dans une classe dite ordinaire, comment les collègues ils peuvent le percevoir. Mais moi, j'ai vraiment aucune moquerie par rapport à la notion de « je suis un garçon, t'es une fille ». Dans le dispositif Ulysse, il n'y a aucun ressenti sur ce sujet.
Donc, avec ce que tu disais tout à l'heure, en fin de compte, l'amitié est vraiment réelle entre les filles et les garçons. Il y a vraiment possibilité d'amitié sans plus, quoi.
C'est ça, oui. Il n'y a vraiment pas de jugement derrière. C'est une amitié pure et sincère.
D'accord. Là, on va peut-être voir la vision des adultes, hein, justement. Hein. Et les parents ou les professeurs ont une autre vision, hein, sur les relations filles-garçons, qui est plus contrastée, surtout sur l'aspect amitié-amour. Donc là, on va écouter l'interview que tu as faite. Gérard, tu peux nous dire un petit peu qui est-ce que tu as interviewé au collège? Toujours avec Fred, je crois.
Oui, toujours avec Fred. Donc, on avait comment Madame Herbert qui était là, qui a permis qu'on ait les classes de 3e et 5e. Et on lui a posé la question à laquelle elle va répondre tout de suite.
Elle est prof de quoi
Je sais plus.
Français ?
Français, je crois. Bonjour, bonjour Madame Herbert.
Bonjour.
Vous êtes professeur
de français.
De français au collège Jean de La Fontaine, c'est ça ?
Oui.
Je vais vous poser juste une petite question. Comment vous voyez l'évolution des caractères des filles et des garçons depuis la 6e à la 3e dans votre collège ?
Alors personnellement, comme je suis professeure en 4e et 3e depuis toujours ici, les 6e, 5e, je vois moins. Mais globalement, dans la cour, il est vrai, les filles restent souvent avec les filles et les garçons avec les garçons, puisqu'ils sont les élèves globalement tous... Enfin tous, une majorité conditionnée par les représentations sociales qu'on leur colle. Il est très difficile pour eux de sortir de ça. Et aussi, en plus d'eux, pèse sur eux la relation possible qu'ils peuvent avoir si une fille et un garçon, ils sont ensemble, ils veulent se mettre ensemble. Et c'est compliqué pour eux de se détacher de ça. Et cette dynamique dans la cour de récréation se retrouve aussi très souvent dans les classes où quand ils arrivent pour se ranger, on a... le groupe de garçons, le groupe de filles, ou inversement, ils sont très souvent ensemble et très peu mélangés. Et donc, nous, notre rôle, c'est de mixer tout ça. Après, bien sûr, là, c'est la généralité, car il y a quand même toujours des élèves qui se mélangent, qui dépassent ça très tôt et qui continuent de rester comme ça. Mais voilà, globalement, ils vivent un peu séparément.
Mais est-ce que pas de classe en classe, par exemple, moi qui vais dans les collèges, je vois la 6e à la 3e, je vois par exemple que vers les 6e, les garçons ont, je dirais, la mainmise un peu sur les classes, et petit à petit, on voit doucement les garçons s'effacer un peu au profit des filles, non ?
Alors, moi, personnellement, dans mes classes, ça, je ne le vois pas. C'est vraiment des histoires de personnalité. J'ai des filles qui ont une personnalité... vraiment vives et elles prennent le pouvoir, la parole et elles s'imposent. Ça peut être également des garçons, mais entre eux, on se parle très très peu.
Là, d'accord.
Bon. Mais voilà, pour le coup, il y a maintenant et je pense aussi que les générations, elles sont éduquées, elles se documentent, elles apprennent. Et elles prennent leur rôle de plus en plus. Et si leur personnalité est d'être exubérante et de prendre la parole et d'être casse-pieds pour nous, maintenant, de la 6e à la 3e, ça, il n'y a pas... Je trouve qu'il n'y a plus de différence. Alors que ma génération, clairement, c'était l'inverse. Mais maintenant, vraiment, ça change, ça bouge et c'est positif.
Et comme me disait l'une des élèves, les filles sont nettement plus mal nature que les garçons.
Sur le rapport au corps, je trouve que les filles, globalement, sont un peu plus... moins dans la rigolade. Voilà, notamment quand on fait le forum vie affective et sexuelle, c'est globalement plus les garçons qui vont rigoler, moins les filles, mais voilà, pareil, c'est une généralité. Hein. Il y a aussi des garçons qui n'ont aucun souci à parler de ces sujets. Voilà.
Et point de vue, pas trop de conflits ?
Entre eux ?
Temps, si, oui, non.
Filles, entre garçons, eux, non, rien de particulier.
Filles, garçons, non.
Ah bah si, après leur histoire,
ouais.
Leur histoire dans la cour, leur histoire d'amour, leur histoire d'amitié, ils sont vifs là-dessus. Ils s'emportent, c'est d'adolescents, hein, toutes les émotions sont exacerbées, donc le moindre conflit, ils le vivent très souvent de manière viscérale.
Eh bah c'est très bien, vous remercie beaucoup.
Oh bah de rien, ça me fait plaisir.
Donc Madame Herbert fait bien le constat que les filles et garçons sont souvent séparés. Elle dit même qu'ils vivent séparément, un peu d'échange entre eux, le rôle des enseignants est donc de les rassembler. Pourtant, quand on écoute un petit peu les troisièmes, hein, on voit qu'il y a quand même des conversations intéressantes. On revient là encore, Madame Herbert, sur l'émancipation des filles par leur maturité sur des sujets comme l'éducation sexuelle, hein, on en parlait. Donc c'est vrai que les filles, elles ont été vraiment sans tabou, elles en ont parlé vraiment librement. Alors moi, je voudrais savoir, on pourrait quand même se poser la question suivante, hein, au collège, là je me tourne vers Johan, l'éducation physique et sportive est parfois sans mixité, ou des fois ils sont séparés, non, t'as jamais...
Jamais connu ça, et jamais vu ça,
moi non plus.
En,
que ce soit en 6 ans d'enseignement, moi je suis plus en lycée depuis quelques temps, mais même...
Alors dis-moi tout.
Même quand j'étais élève, non, généralement en EPS c'est totalement mixte, hein, il y a absolument...
Non, parce que, ah ouais, d'accord, parce que moi, en fin de compte, moi, mes enfants, c'était séparés. Les garçons avaient un prof homme, et donc femme, voilà.
Jamais connu ça, ni dans ma scolarité, ni en tant qu'enseignant.
Ah bah d'accord, alors
non, c'est... Non, mais dans les collèges non plus, moi, c'est tous les cours étaient mixtes.
Et au lycée?
Toujours mixte.
Alors ça a changé. Alors moi, je suis vraiment une vieille. Alors non, c'est ça que t'es en train de me dire.
au lycée, non, c'est clairement mixte. Hein. Non, ils font les mêmes sports. Bon, voilà. Non, ils sont.
Ils faisaient les mêmes sports. Si tu veux à peu près les mêmes sports, mais ils étaient séparés.
Alors, ce qui peut arriver parfois dans les cours de PS, collège ou lycée, c'est en termes d'attente sur certains résultats. Si le cursus sur la musculation, on va pas attendre la même chose d'un garçon ou d'une fille sur la musculation, ce qui est logique.
Donc on a avancé quand même.
Mais sinon, en termes d'attendu, sur un sport comme le ping-pong ou le badminton, c'est les mêmes notations, c'est les mêmes... Éventuellement, parfois, il peut y avoir un groupe fille, un groupe garçon. Par exemple, sur la course, je voyais, il y avait le cross du collège là, récemment. Là, les filles et les garçons faisaient la même chose, sauf qu'il y avait un podium fille, un podium garçon. On sépare parce qu'effectivement, on va avoir parfois peut-être plus de garçons devant sur la performance, l'ultra-performance, peut-être plus de garçons qui vont essayer de la rechercher. Mais il y a un podium garçon, un podium fille, mais c'est la seule chose qui est séparée. Ouais. Sinon, ils font
parce que même moi, je connaissais aussi les cours séparés filles-garçons en EPS.
Non, au collège, nous.
Si, et même au lycée.
Elle a vécu dans un autre monde.
C'était dans l'Oise.
C'est comme nous en primaire, donc il y a des disparités.
Voilà, c'est ça, ouais. Et toi, Julien, donc de toute façon, il n'y a pas de séparation en EPS chez les enfants?
Non, du tout.
Est-ce qu'il n'y a pas de frein à chacun, même dans le sport, à faire des activités chacun ensemble?
Comment ça?
Est-ce qu'il n'y a pas des a priori quand ils font du sport ou quoi que ce soit, à faire des activités, à être ensemble dans les groupes ou des activités? Dire, comme c'est du foot ou autre, dire, moi, je vais plutôt dans le groupe garçon, groupe fille, par rapport à ça, quoi. Nous, on l'a vu quand il fallait faire des groupes. Des fois, c'est compliqué.
C'était très compliqué.
Des fois, quand on est au jardin, c'est un peu compliqué. Puisqu'on est au jardin partagé, on fait des groupes. Quand il y a une grande classe, notamment quand c'était Eugénie et Mathilde qui viennent, c'est plus compliqué. Il faut toujours essayer, d'imposer les choses.
Oui.
Ça ne se fait pas d'office.
C'est toujours des choses qu'on impose. Même moi, j'ai des groupes en histoire géo, en EMC, quand je fais des groupes. Moi, même au lycée, souvent, je fais des travaux de groupe, en lycée. Je me retrouve avec des élèves qui ne veulent pas travailler avec telle ou telle personne. Alors après, parfois j'impose, parfois je laisse faire les choix, et c'est vrai que quand je laisse les choix libres, on peut retrouver effectivement des groupes plutôt filles, plutôt garçons. Alors après, je pense que c'est par rapport aux affinités.
Les affinités, oui.
Il peut y avoir un garçon avec des filles, une fille avec des garçons, tout dépend des affinités encore.
Mais justement, peut-être que le fait de faire des groupes de travail comme ça, mixtes, souvent les professeurs, justement, c'est ce qu'ils font, juste pour essayer que les filles et les garçons se connaissent mieux et s'apprivoisent peut-être un petit peu mieux. Apprivoiser, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais
moi, je vois au lycée, je ne le recherche pas spécialement, je ne réfléchis même pas, la question, ça ne me la pose pas, je ne réfléchis même pas si c'est un groupe garçon, un groupe garçon-fille ou un groupe fille. Je ne fais pas la différence, sachant que je pense que même eux ne font pas la différence, arrivés au lycée. Au collège, effectivement, lorsque je fais par exemple un plan de classe, là je vais en refaire pendant les vacances pour repasser un peu, avoir un peu plus de calme dans les petites classes.
Tu fais des plans de classe
en
ça
collège,
existe encore
en lycée, ça n'a pas d'intérêt c'est plus, beaucoup plus posé, hein, la relation à l'élève est beaucoup plus posée et puis les cours sont beaucoup plus posés, mais en collège ça a du sens, et en collège très souvent le plan de classe efficace et efficient c'est garçon-fille. Oui. Généralement, dans l'idée aussi, c'est souvent ça, comme ça je le pense, quand j'ai fait des classes de collège, souvent c'est les filles qui vont, pas toujours, mais très souvent, les filles qui vont canaliser les garçons qui sont généralement plus remuants dans les petites classes.
Et toi, Julien, quand tu fais les groupes de travail, c'est pareil, tu les mélanges systématiquement malgré leur âge différent?
Ça dépend des moments, je fais des groupes justement, des groupes d'âge, des moments je vais faire des groupes au niveau des affinités aussi également, ça dépend ce qui est recherché pour le coup en termes d'objectifs, mais la plupart du temps je suis obligé au vu de l'effectif de mixer, que ce soit au niveau garçon-fille et au niveau de l'âge pour le coup.
D'accord, vas-y.
Moi j'ai fait une expérience une fois avec une classe de 5e, quand ils sont rentrés, j'aurais dit aujourd'hui on va tester quelque chose de nouveau, vous mettez un garçon, une fille, un garçon, une fille.
Et alors?
Ils sont tous restés debout, ils m'ont regardé.
Ils ont dit, mais qu'est-ce que
j'ai dit, non, c'était une blague, parce qu'on n'a qu'une heure, on n'arrivera pas à trouver les places. Hein. Donc, ça a été vraiment le... Ils m'ont tous regardé en disant, quoi, c'est question... Tu connais de ça, ouais. C'est terrible,
mais,
quoi.
Mais très
le flash, quoi.
Très souvent, quand on les place garçon-fille, ah, vous avez fait garçon-fille, ah non, c'est la catastrophe, hein. c'est horrible pour eux. Alors là, j'ai fait ça en cinquième, j'ai un plan un peu pour les garçons-filles, ça fonctionne, mais alors c'est vrai qu'au départ, ils sont là, ah, allez, et puis il y a toujours, souvent les filles se plaignent en disant, ah, mais il est chiant, mais puis lui aussi, il est chiant, et puis, et en fait, souvent, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ah ouais, non, mais c'était la façon dont ils se regardaient tous, entre garçons et filles,
je me mets tout,
Oui, c'est terrible, quoi.
Mais c'est marrant, hein, le fait de toujours, pour canaliser les garçons, mettre une fille pour le calmer. Et alors, le problème aussi du groupe de travail, ça, je voudrais savoir ce que vous en pensez, Julien et Johan. On dit toujours que c'est les filles qui travaillent beaucoup plus que les garçons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça change? Est-ce que... Non.
Alors, au lycée, pour d'expérience en travail de groupe, j'en ai fait quand même un certain nombre, en seconde et en première, même en terminale d'ailleurs, mais surtout en seconde. Ça marche bien, donc les travaux de groupe, c'est juste simplement l'intérêt de l'élève pour la matière. Hein, ça n'a pas forcément. C'est pas forcément des filles. Alors, effectivement, il y a souvent des filles qui travaillent très très bien. Effectivement, il y en a, très très scolaires, très très studieuses qui sont directement dans le travail. Il peut y avoir aussi des garçons, il peut aussi y avoir des filles qui ne font rien, ça peut arriver, donc c'est assez, assez disparate. Au collège, peut-être un peu plus. Effectivement, au collège, les moteurs, notamment dans les petites classes, c'est bien plus souvent les filles. Effectivement, les garçons sont plus parfois dans la contestation, le refus de travail. C'est peut-être plus des garçons qu'on va retrouver, effectivement, qui vont peut-être faire des filières un peu plus courtes aussi, qui n'ont pas forcément envie de poursuivre une scolarité. Il y a peut-être plus de filles qui vont au lycée, par exemple, que de garçons en termes de proportion. Je ne sais pas, mais ça serait à voir en termes de chiffres.
Mais parce que les groupes de travail, bon, alors ça se passe en classe, mais souvent on demande aussi à faire des recherches directement à la maison. Et là, on se rend compte que c'est souvent les filles qui apportent le travail.
Moi, en sixième, j'ai eu des demandes d'exposé. Hein. J'ai eu deux, trois demandes d'exposé. Je veux faire un exposé. C'est souvent des filles qui viennent me voir en disant « Ah, monsieur, je veux faire un exposé là-dessus, je peux faire un exposé là-dessus. » Un garçon, c'est beaucoup plus rare, effectivement. Effectivement, il traîne un peu plus la patte. Dans les petites classes, du moins, ça se lisse avec le temps. C'est-à-dire que plus ça vieillit, moins c'est
oui, parce
c'est
qu'ils probant. Se rendent compte, voilà, qu'il faut travailler. Et toi, Julien, au niveau de l'ULIS, tu as les mêmes impressions?
Bah, moi, j'ai pas de ressenti de disparité, qu'il y ait plus de garçons, de filles qui travaillent. C'est vraiment... ça dépend de la personnalité de chacun, je dirais. Pour le coup, j'ai des filles qui vont ne pas vouloir travailler, il faut les pousser constamment, et des garçons qui vont être moteurs, et d'autres qui vont se laisser porter, vraiment. Et pour le coup, en prenant l'exemple des exposés, j'ai cette année deux garçons qui m'ont demandé quand est-ce qu'ils pourront faire des exposés au sein du dispositif. Mais du coup, il y a vraiment pas d'inégalité par rapport à ça, c'est vraiment... je dirais 50-50.
Et au niveau des exposés, c'est toi qui choisis le thème ou tu leur laisses libre choix?
Alors moi, je leur laisse libre choix. Voilà, comme c'est des élèves en difficulté, je préfère qu'ils choisissent un thème qu'ils apprécient. Et c'est vraiment pour se mettre en valeur et justement favoriser l'échange. Et bon, après, voilà, il faut que ce soit un sujet qui va parler au reste de la classe quand même. Mais la plupart du temps, je les laisse choisir le sujet.
Moi, j'avais envie aussi de parler des relations filles-garçons. Hein. Ça a beaucoup changé avec la venue des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont pris quand même une part importante dans les affinités des uns et des autres, élargissant le champ d'amis. On connaît tous l'importance de faire partie d'un groupe au niveau personnel et social, se découvrir, s'affirmer, etc., mais aussi par crainte du rejet et de l'isolement. Et souvent, les parents, justement, ont peur que les enfants aillent dans des groupes et qu'ils en perdent leur personnalité, l'individu, en quelque sorte. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça chez certains parents ou des professeurs aussi qui se posent peut-être la question? Pas du tout. Vas-y, Julien.
Bah, moi, je pense qu'en école primaire, ils sont encore trop jeunes pour. Je pense que ça se fait dans les grandes classes, plutôt en classe de CM. Ça commence avec les jeux en ligne, etc. Donc, il va commencer à y avoir des petits groupes. Mais je pense que pour l'instant, ils n'ont pas encore tous de téléphone et tous accès justement à tous ces réseaux. Je sais qu'il y a des. Voilà, il y a des phénomènes. On parle en ce moment de TikTok, etc. Je sais qu'il y a des élèves qui commencent, mais je pense que ça prend plus d'ampleur justement au collège. Je pense que justement, Johan, il va pouvoir expliquer clair un peu.
Oui, en fin de compte, ma question était, Johan, en fin de compte, les jeunes veulent vraiment faire partie d'un groupe. Et donc, c'est souvent les parents ou les professeurs, on se pose la question, le fait qu'ils appartiennent à un groupe, qu'ils veulent ressembler à ce groupe, qu'ils veulent avoir les mêmes idées, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, la perte de l'individu et de sa personnalité? Et souvent, les parents ont peur quand les jeunes rentrent et disent, bah, tiens, je fais partie de ce groupe-là. Les parents ont peur, mais est-ce qu'il ne va pas perdre toute sa personnalité?
En théorie, non. Enfin, en théorie, le groupe permet de constituer, justement, sa personnalité. Il se construit à travers le groupe quelque part. Après, moi, j'ai pas le sentiment. Alors, effectivement, il y a des groupes. Moi, je le vois au lycée très clairement. Les groupes identifiés, pas forcément que des. Enfin, souvent, il y a des garçons et des filles d'un côté. Ça peut arriver. C'est arrivé dans une classe de première. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais après, il y a des petits groupes effectivement qui se font avec les artistes, par exemple, les sportifs, les scientifiques. Enfin, il y a vraiment des groupes d'affinité par rapport à ce qu'ils font.
Oui, puis je pense, moi, c'est ce que j'avais noté aussi. Hein, c'est que le groupe est devenu courant dans leur esprit des jeunes, hein, parce que quand ils sont à l'école maternelle, on forme des groupes, voilà, hein, des groupes verts, bleus, et puis même au niveau des collèges, je ne sais pas si tu as ce système-là, il y a parfois pour scinder les classes en deux, quand il y a l'effectif est trop grand, on fait semaine 1 groupe A, semaine 2 groupe B, donc les gamins ont tellement entendu ce truc de groupe que je crois maintenant ils sont tellement... Ils s'identifient au groupe de toute façon.
Ils sont formatés à ça, effectivement, groupe A, groupe B. Alors, on l'a au collège dans certaines disciplines. Il y a aussi au lycée, en EMC. Moi, j'ai une semaine le groupe 1, une semaine le groupe 2. C'était marqué très fortement l'année dernière lorsqu'on était en lycée en demi-jauge. On avait la moitié des élèves, donc à tel point que là, on le revoit en terminale. Les tensions qu'on a dans les classes, qu'on peut avoir dans les classes, on a eu quelques-unes, c'est des élèves du groupe 1 et des élèves du groupe 2 qui sont en tension parce que ils ne se sont pas vus pendant un an ou presque, et là ils se retrouvent dans une classe à 36, et effectivement on peut avoir des tensions avec un tel qui n'aime pas un tel, ou ils ont oublié de... Enfin, ils n'ont plus l'habitude de travailler à 36, et donc du coup ils étaient bien mieux à 18 dans leur petit groupe, dans leur petit cocon, et là ils seront à 36, ça devient
ça, c'est le revivre ensemble, là, c'est autre chose.
Et c'est ça, c'est la question que se posent les parents, en fin de compte, le fait de faire partie d'un groupe, il y a les normes du groupe, et donc c'est toujours cette question individu, mais on me fait signe qu'il faut que j'arrête de parler. Donc j'arrête de parler.
Eh bien, on va demander la petite conclusion à Julien, rapide.
Julien, tu es toujours avec nous ou pas?
Oui, je suis toujours avec vous.
Voilà, bon. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça sur ces relations filles-garçons, en conclusion?
En conclusion, je pense qu'on est comme tout le monde, dans un premier temps, du coup, je vais reprendre les termes des élèves interviewés du collège, il y a le côté innocence qui intervient, et pour le coup, l'amicitale se fait vraiment parfaitement au sein de l'école. Et avec l'évolution, justement, les centres d'intérêt de chaque enfant au collège, il y a une disparité qui commence à se faire dans les classes de 6e jusqu'en fin de 3e, on va dire, donc du coup, peut-être lié aussi à la société et puis au phénomène culturel. Et c'est quelque chose du coup qui va s'amoindrir du coup avec le temps. Du coup, les élèves vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir échanger et du coup s'intéresser au même centre d'intérêt. Et du coup, il y a question de maturité aussi plus chez les garçons qui se fait tardivement, je pense. Et je pense que même aussi, ils ont leur propre opinion au fil des années. Voilà, ils entendent un petit peu ce qui se passe à la maison, mais eux, ils se font leur propre idée. Et du coup, c'est quelque chose qui a amené à évoluer. Je pense qu'on a fait un grand pas vers cette mixité, que c'est voué à évoluer encore et encore.
Johan, le mot de la fin?
Oui, donc très rapidement, je pense qu'effectivement, c'est aussi un problème de société. Hein. Je pense que la problématique qu'on a à l'école sur les relations garçon-fille, c'est une problématique qui dépasse le cadre de l'école. Et on a aussi de plus en plus d'élèves, notamment au lycée, qui s'interrogent sur le genre. C'est une question qui commence à arriver de plus en plus. On a les élèves qui se définissent comme non-binaires, par exemple, ce genre de choses.
On va faire une émission là-dessus.
C'est très intéressant. J'ai des élèves qui se considèrent comme non-binaire, par exemple, j'en ai. On a effectivement pas mal de choses qui sont, on le voit en EMC, qui sont incrustées dans nos esprits très tôt. Par exemple, les garçons, le foot, les filles, la poupée Barbie, les garçons, la guerre, les filles, la cuisine, ce genre de choses qui restent
quand même encore
ancrées encore au lycée.
Ah ouais.
Encore ancrées au lycée chez certains. Et on a certaines réactions machistes qui peuvent apparaître aussi. Et ces relations garçons-filles, en fait, c'est des relations qui se posent à l'échelle de la société et non pas seulement à l'échelle scolaire.
Eh bien voilà, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Johan et Julien. Cette émission Pédago Rando sera diffusée pendant le mois de novembre, le vendredi 5 à 19h, le lundi 8 à 16h30, le samedi 20 à 17h et le mercredi 24 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera 10 et les moyens mis en place. Merci Luc à la technique, à bientôt.
Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un moment on est Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin en me voyant me dira bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger.